VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Égypte, au moins 26 personnes tuées ce vendredi dans l'attaque par des hommes armés d'un bus transportant des chrétiens dans la province de Minya, au sud du Caire. C'est ce qu'annonce la télévision nationale et des responsables. L'attaque a lieu un mois et demi après des attentats contre deux églises coptes qui ont fait 45 morts et avaient été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Et puis en Libye, de violents affrontements opposent des groupes armés rivaux ce vendredi dans le sud de Tripoli, la capitale. On y entend des explosions et des tirs d'artillerie, selon l'AFP. Les combats ont commencé à l'aube dans les quartiers d'Abou Slim, Adba et Salahedine, où des chars ont été déployés. Plusieurs groupes hostiles au GNA, le gouvernement d'Union nationale, revendiquent sur leur page Facebook des attaques contre les forces loyales à cet exécutif soutenu par la communauté internationale. La capitale libyenne en proie à une insécurité chronique depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011 est sous la coupe de dizaines de milices. En Côte d'Ivoire, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, convoqué ce vendredi à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan Plateau pour être entendu. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La convocation de Souleymane Camarate Konedi Soultoussoul, bras droit du président de l'Assemblée, fait suite à l'affaire des caisses d'armes qu'on aurait trouvées au domicile de la mère de M. Koné lors du mouvement d'humeur des mutins début mai à Boaké. Tout est donc parti de cette supposée cache d'armes découverte au domicile de Soultoussoul lors de la récente mutinerie des soldats ivoiriens. L'affaire fait grand bruit à Abidjan en raison des affinités de l'intéressé avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ancien chef de l'ex-rébellion, dont les éléments constituent l'ossature des soldats ayant participé aux récentes mutineries en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro avait en réaction vigoureusement recommandé à son collaborateur, M. Koné Camarate, de se mettre à la disposition des enquêteurs et lui avait demandé de dire sur l'honneur et sur sa conscience ce qu'il sait pour contribuer à aider la justice à conduire ce dossier.
Au Mali, pas de répit dans les attaques terroristes dans le nord et le centre du pays. Deux casques bleus ont perdu la vie à Aguerloc, dans l'extrême nord-est, près de la frontière algérienne. Et une école a été saccagée dans la région de Mopti. Le Burkina voisin est aussi ciblé par les djihadistes. Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien malien Les Échos, se penche sur les perspectives de la lutte antiterrorisme dans le Sahel.
La solution peut être au niveau du G5 Sahel, mais malheureusement jusqu'ici c'était mal emmanché. En ce sens que, bon, le G5 Sahel, c'est des pays qui ne se font pas trop confiance, qui n'ont pas le partage de l'information, qui ont des récriminations les uns contre les autres. C'était vraiment mal emmanché. Mais je pense que, comme Macron l'a promis, Macron sera présent au Mali pour le moment. La date retenue est le 9 juin pour la prochaine rencontre du G5 Sahel. On espère que cela va donner une nouvelle impulsion et une nouvelle orientation à ce niveau-là. Sinon, la solution réside au niveau du G5 Sahel parce que ça va permettre une mutualisation des moyens, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien malien Les Échos. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a nommé une équipe chargée de réviser la Constitution. Certains articles ou verrous, comme la limitation des mandats présidentiels, risquent de sauter. L'opposition burundaise affirme que le parti CNDD veut la suppression des accords de paix d'Arusha conclus en 2000 en Tanzanie. Le point avec Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Pascal Nguendakuriyo est à la tête d'une commission de 15 personnes qui viennent d'horizons politiques divers, de différentes religions et ethnies. Il a la lourde mission de pouvoir présenter au mois de septembre ou avant la fin de cette année au président burundais un rapport qui précise bien les articles à modifier dans la constitution actuelle, y compris l'article concernant les mandats présidentiels. Pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, cette idée de revisiter la constitution n'est pas nouvelle. Une commission technique a été mise sur pied dernièrement par le numéro 1 citoyen burundais, il est déjà à pied d'œuvre. Évariste Ndayishimiye.
Il y a des procédures pour amender la constitution. Il y a eu des idées qui sont venues de beaucoup de citoyens burundais qui demandent qu'il y ait amendement de la constitution. C'est là même où on a commencé à parler de questions de mandat. Il y a une commission technique qui va étudier techniquement comment mettre en œuvre ces recommandations. Même dans la feuille de route de Kayanza, les partis politiques avaient prévu la révision de la constitution parce qu'il y a toujours des lacunes. Ce sont les membres de la commission technique qui étudient la gestion des institutions qui étaient en place.
Pour le parti de l'indépendance, il prônait Union pour le progrès national. La révision de la constitution burundaise ne peut pas intervenir au moment où les parties prenantes sont aujourd'hui en pourparlers. Tassien Sibomana.
Un parlement futur légal et légitime ne peut pas se targuer d'avoir la compétence de réviser la constitution. Et cet accord est pour nous un pacte social entre Burundais qu'il ne faut pas changer sur l'initiative de tout venant. La deuxième raison, c'est que l'article 299 est clair. Aucune procédure de révision n'est envisageable quand elle peut porter atteinte à la cohésion nationale, au principe de la démocratie.
Président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, estime que le parti présidentiel CNDD-FDD veut enterrer une fois pour toutes tous les accords de paix et de réconciliation d'Arusha.
Le Parena n'a jamais contesté le principe même de la révision de la Constitution. Seulement, comme il y a un dialogue à Arusha, il faut que cette Constitution soit changée dans l'esprit et les conclusions des accords d'Arusha. Si on met une commission avant les conclusions d'Arusha, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le problème nord-coréen sera résolu, a affirmé aujourd'hui à Taormina, en Sicile, le président américain Donald Trump lors d'une rencontre bilatérale avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président américain s'est entretenu avec M. Abe peu avant le début du sommet des dirigeants du G7 en Sicile, réunion qui doit notamment examiner la question de la Corée du Nord après une série de tirs de missiles balistiques nord-coréens en violation des résolutions de l'ONU. Pour sa part, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé tous les membres du G7 à réaffirmer la politique de sanctions contre la Russie dans le dossier ukrainien, alors que l'administration Trump reste plutôt ambiguë sur la question. Le président Trump rencontrera au sommet de Taormina les leaders des grandes démocraties industrielles et aussi les dirigeants de pays en voie de développement comme le Nigeria et le Niger qui ont été invités. Hier, le chef de l'exécutif américain a effectué sa première visite à Bruxelles, la capitale européenne. Il a appelé l'OTAN à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie et il a renouvelé son appel au respect des engagements financiers de tous les États membres. Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales, nous parle des enjeux de cet engagement.
Durant la campagne électorale qui a vu la victoire de Donald Trump, on a très bien senti que Trump se recentrerait prioritairement en interne. Donc les États-Unis d'abord. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu un discours quasiment de banquier vis-à-vis de ses homologues de l'OTAN, en leur expliquant la nécessité de mettre la main à la poche, puisqu'il y a des pays qui ont failli à leurs obligations de cotisation. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Trump, en fait, est en train de distiller simplement son point de vue sur le fond d'une telle institution. Et en bon homme d'affaires, son problème se résume essentiellement au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent que chacun doit impérativement dépenser pour justifier l'existence d'une institution qui ne survivra que si sa capacité d'action est renforcée. Et pour cette raison, je pense qu'il n'y a aucune surprise de sa part. Trump est un pragmatique. Maintenant, il aura tout le temps, bien évidemment, de se ressaisir puisque le temps de la campagne électorale étant terminé, il est maintenant confronté à la réalité.
Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales. Et puis ici aux États-Unis, la justice a confirmé hier en appel la suspension du décret anti-immigration du président Donald Trump. C'est un nouveau camouflet pour cette mesure controversée. Rosine Munezero.
Le Congrès a accordé au président le pouvoir d'interdire l'entrée des étrangers aux États-Unis, mais ce pouvoir n'est pas absolu selon le juge Roger Gregory, président de la Cour d'appel de Richmond, capitale de la Virginie. Dès que le verdict est tombé, Omar Jadwat, avocat opposé au décret présidentiel, a écrit sur Twitter « Nous avons gagné ». La Constitution des États-Unis interdit la discrimination religieuse. Les opposants au décret avaient plaidé le 8 mai devant la Cour d'appel fédérale de Richmond que M. Trump avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Le fameux décret ainsi que sa deuxième mouture avaient été bloqués en février et mars par les tribunaux. Deux suspensions dénoncées par Donald Trump comme symptomatiques d'une justice politisée. Maintenant, il ne reste à son administration que le recours à la Cour suprême.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.